Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à l'épître de Paul pour les Romains, l'épître aux Romains. Nous lirons au chapitre 12 à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Romains chapitre 12 à partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont les chats des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous ce matin. En effet, chers frères et sœurs, nous voici réunis, unis, pour cette nouvelle année que le Seigneur place devant nous, une année qui sera certainement faite de bonnes surprises, de belles choses. Il y a encore beaucoup de bonnes choses que le Seigneur nous réserve, mais aussi une année, et certainement, qui sera aussi faite de quelques épreuves, de quelques moments difficiles. Que dire à l'Église, que dire au peuple de Dieu pour ce culte de rentrée? Nous pourrions certainement, comme nous venons de le faire tout au long de cette première partie, considérer toutes ces promesses, belles promesses de Dieu, toutes ces promesses, tous ces encouragements que Dieu nous a laissé dans sa parole pour nous encourager à commencer l'année dans la confiance, dans la sérénité, même si nous vivons dans un monde ébranlé de toutes parts. Encore, nous pourrions considérer justement la situation dramatique de notre monde avec tous ces conflits, avec toutes ces guerres, pour nous rappeler que peut-être l'histoire de notre humanité commence à toucher à sa fin, et que le jour de notre Seigneur s'approche à grands pas, et du coup nous encourager aussi à tenir bon, parce que nous savons que les jours sont mauvais et que notre Seigneur viendra mettre fin à ces mauvais jours. Sachant que toutes les promesses du Seigneur sont oui, amen, se confirment dans la vie de chacun, et ce matin nous avons entendu des témoignages concrets, des témoignages très forts de l'intervention de Dieu dans des situations critiques, exigeantes, sachant que toutes les promesses du Seigneur sont oui, amen. Sachant que aussi le retour du Seigneur, il arrivera au bon moment, le moment où il le jugera bon. J'ai choisi donc pour notre culte de rentrée simplement une parole, j'ai pas osé aller jusqu'à trois, juste une parole qui nous mettra en mouvement pour ce culte de rentrée, une parole que j'espère ne portera dans le service tout au long de cette année. J'ai choisi donc pour notre culte de rentrée, de mettre devant nous cette exhortation de l'apôtre Paul qui est au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » En effet, dans ce texte que nous avons lu, l'apôtre Paul nous livre une série d'exhortations lié à la manifestation concrète de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu répand dans notre cœur. Au verset 9, Paul, il pose le fondement, et dans les versets 10 à 13, l'apôtre Paul, il nous donne l'expression de cet amour fraternel, et du verset 14 à 21, fraternel, c'est-à-dire entre les frères et sœurs, et du 14 à 21, l'apôtre Paul nous exhorte, nous parle de l'amour envers tous les hommes, tous les êtres humains, y compris même envers ceux et celles qui nous persécutent pour notre foi. Nous pourrions relever toutes ces composantes de cet amour qui sont remarquables et méditer sur chacune d'entre elles. Il est question de la sincérité, un amour sincère, sans hypocrisie. Il est dit au verset 9, un amour qui est sincère, un amour qui exerce du discernement, de l'affection, de l'honneur, etc. Mais ce matin, c'est sur le zèle que je veux nous inviter à réfléchir. Ayez du zèle, nous dit l'apôtre Paul. C'est quoi le zèle? De quoi s'agit-il? En effet, le dictionnaire définit le zèle comme une ardeur, comme un empressement, un dévouement mis au service d'une cause, d'une personne ou de l'accomplissement d'une tâche. Le zèle dont il est question dans notre texte s'inscrit en effet dans cet élan intérieur, dans cet empressement pour servir le Seigneur là où il nous place et avec les dons, les capacités qu'il nous accorde. Avant notre texte, l'apôtre Paul justement décrit les différents services dans l'Église où les membres, les frères et sœurs, sont appelés à exercer avec zèle. Et au verset 7, verset 8, avant le texte que nous avons lu, donc du chapitre 12, l'apôtre Paul énumère un certain nombre justement de ces services qu'il exhorte à accomplir avec zèle. L'un a-t-il un don de service qu'il serve? L'autre, celui d'enseigner qu'il enseigne, l'autre, celui d'exhorter qu'il exhorte, que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie, écrit l'apôtre Paul juste avant notre texte. Le zèle auquel Paul nous encourage ici consiste en cette volonté, cette détermination que nous devons avoir dans le service pour le Seigneur. C'est l'empressement, voire même le bouillonnement, et c'est laissé entendre par le terme zèle, que nous devons avoir au fond de nous-mêmes lorsque nous sommes engagés dans le service pour le Seigneur, et que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, en public comme en privé. Tous les services que nous rendons au Seigneur, que ce soit des services liés au ministère de la parole ou bien des services liés à l'accompagnement des personnes, nous sommes appelés, encouragés à les accomplir avec zèle et enthousiasme. Les différents services sont les lieux, l'expression justement concrète de ce zèle pour le Seigneur. Le service parmi les enfants, nous venons de parler, parmi les ados ou les juniors désormais, parmi les jeunes adultes, l'évangélisation, la diaconie, dans l'entretien, dans le développement des bâtiments, tout cela sont des services que Dieu place devant nous où nous sommes invités à manifester notre zèle pour le Seigneur et pour les frères et sœurs. Que chacun donc de ceux qui servent déjà, qui sont engagés dans ces différents services, le fasse avec encore plus de zèle au cours de cette année qui commence, que le Seigneur vous accorde, nous accorde à tous ses grâces et ses ressources. Quant à ceux qui peut-être ne sont pas, qui se demandent où justement ils peuvent servir, où ils peuvent eux aussi manifester leur zèle pour le Seigneur, vous pouvez venir nous voir, n'hésitez surtout pas à venir nous voir et nous serions très heureux de vous accompagner, vous aider, vous orienter pour que vous puissiez vous aussi à votre tour servir et exprimer, manifester votre zèle pour le Seigneur parmi nous, si tel est bien sûr l'appel de Dieu pour vous. Nous sommes là avant tout, nous dit toujours l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, pour équiper les saints, pour qu'ils servent en vue de servir le Seigneur. Le zèle que nous devons avoir ne doit pas se limiter, bien entendu, aux activités ecclésiales, c'est-à-dire aux activités liées à l'Église, mais il doit aller bien, bien au-delà. Nous devons avoir du zèle dans tout travail, y compris le travail séculier que le Seigneur nous confie. Notre vie professionnelle, même lorsqu'elle n'est pas en lien direct avec le service chrétien, doit aussi faire l'objet de notre zèle. L'apôtre Paul exhorte dans l'épître aux Colossiens à faire tout pour le Seigneur et non pas simplement le travail ou le service au sein de l'Église. Quel que soit votre travail, écrit l'apôtre Paul, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur et cela par égard pour le Seigneur et non pas par égard pour les hommes. Quelle que soit notre profession, quel que soit notre travail, pourvu qu'il soit bien entendu en accord avec les valeurs de l'Évangile, nous sommes appelés à le faire, à l'exercer comme un service que nous rendons pour notre Dieu, pour notre Seigneur, et par conséquent à l'accomplir avec empressement, avec zèle. Au-delà du service, de l'action, des œuvres, notre zèle doit aussi se manifester envers les frères et sœurs dans la foi, envers des personnes, comme les chrétiens de Corinthe ont su le faire aussi à l'égard de l'apôtre Paul. En effet, ce zèle manifesté à l'égard de l'apôtre Paul a fait beaucoup de bien à l'apôtre Paul, et c'est un zèle qu'il a beaucoup encouragé, surtout dans les moments difficiles qu'il traversait. Et voici ce qu'il leur écrit dans la deuxième épître au chapitre 7. « Grande est ma confiance en vous, grande est la fierté que j'ai de vous. Je suis tout rempli de consolation, je déborde de joie dans toutes nos détresses. Dieu qui nous console, qui console les humbles, nous a consolés par l'arrivée de Tite, non seulement par son arrivée, mais par le réconfort qu'il a reçu de vous. Il nous a fait part de votre vif désir, de vos larmes et de votre zèle pour moi, au point que j'en ai eu une joie encore plus vive. Notre zèle peut se manifester dans le souci que nous avons à l'égard des autres, des uns à l'égard des autres. Pensez à un tel frère qui traverse des moments difficiles, pensez à une telle sœur, envoyez une carte pour un tel frère, une sœur aînée qui ne peut plus venir à l'église, visitez un tel malade, visitez une personne limitée par l'âge, proposez un service. Toutes ces manifestations sont des actes d'affection que nous pouvons accomplir avec zèle pour le Seigneur et avec zèle du Seigneur pour nos frères et sœurs, comme les chrétiens de Corinthe l'ont fait à l'égard de l'apôtre Paul. Ce souci fraternel, qui se traduit donc par des actes concrets, par des actions concrètes, apporte souvent de réels encouragement, de réel réconfort face à la difficulté. Et souvent, il apporte même la joie au cœur de la détresse, au cœur, il apporte la joie pour les personnes qui vivent même dans des moments difficiles, exigeants. C'est cela que l'apôtre Paul a vécu suite au zèle qui lui a été manifesté par les chrétiens de Corinthe. C'est aussi à cela que nos frères et sœurs, au bénéfice de toutes ces intentions que vous avez eues au cours des années précédentes, des derniers mois et encore pendant l'été, que les frères et sœurs nous ont apporté. Ils nous ont dit qu'ils ont été très encouragés par vos appels téléphoniques ou par les cartes que vous leur avez envoyées, et aussi par les visites. Et je pense ici en particulier à nos sœurs qui font des visites des frères et sœurs. Et nous recevons avec Thierry, nous sommes vraiment reconnaissants, nous recevons des échos très positifs et nous sommes très encouragés. Et nous ne pouvons que nous encourager tous dans cette direction à aller encore plus loin avec le zèle du Seigneur dans cette direction pour l'année qui commence. Dans toutes ces formes de zèle, notre Seigneur Jésus-Christ est l'exemple à suivre. C'est lui qui a manifesté le zèle pour les œuvres de la maison de son Père. Et il l'avait fait de bien des manières. C'est aussi lui qui a manifesté un zèle sans faille pour tenir bon jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour nous sauver, pour nous délivrer, de nous délivrer de notre condamnation. Oui, c'est lui, notre Seigneur, c'est lui qui garde son zèle intact encore pour aujourd'hui, comme nous l'avons vu ce matin. « Je suis » nous répond à chaque fois que nous nous adressons à lui. C'est lui, il a toujours ce zèle de venir, intervenir dans notre vie, intervenir, intercéder auprès du Père en notre faveur. Je veux donc nous encourager ce matin à suivre les traces de notre Seigneur dans le zèle que nous sommes exhortés à avoir les uns envers les autres, dans le service pour notre Dieu et aussi dans le travail, là où le Seigneur nous place pour apporter un témoignage, pour être des témoins de son amour et de sa grâce. Faisons donc attention à toute forme de tiédeur qui pourrait venir, qui pourrait nous freiner dans cet élan-là au cours de cette année. Avoir du zèle, certes, mais est-ce que tous les zèles sont bons? Et c'est la question que nous devons nous poser. Surtout, nous devons nous la poser, surtout à la lumière de l'actualité. Ces dernières années attirent notre attention sur le fait que certains qui se disent zélés conduisent certains zèles conduisent des personnes à devenir presque des bombes vivantes et donner la mort au passage à des milliers d'innocents. Je pense ici en particulier à tous ces fanatiques qui sèment la terreur et la mort, et tout cela au nom de Dieu et au nom du zèle pour Dieu. Aujourd'hui, je me permets de mentionner en particulier les partisans de Abu Bakr al-Baghdadi, c'est le Baghdadi, c'est ce monsieur qui s'est autoproclamé comme calife de l'État islamique en Irak et au Levant. Et les chrétiens d'Irak souffrent énormément, beaucoup ont payé un tribut lourd. Et tout cela est fait pour ces gens-là, pour ces hommes-là, au nom du zèle pour Dieu, au nom de la cause de Dieu. Quels sont les éléments nécessaires pour que notre zèle, justement, ne nous conduise pas dans ces formes d'extrémisme et dans ces formes de fanatisme? La première chose que l'apôtre Paul place devant nous pour nous préserver dans notre zèle, pour préserver notre zèle de toute forme d'obscurantisme, c'est le discernement. La Bible ne nous enseigne pas de foncer la tête baissée et de croire tout et son contraire, mais elle nous invite à exercer notre jugement pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et c'est par ces paroles-là que commence le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. C'est ce manque de discernement que l'apôtre Paul, justement, reproche aux Juifs de son temps. Et il écrit au chapitre 10, toujours de la même Épître aux Romains, il dit « Frère, je souhaite que de tout cœur que les Israélites soient sauvés, et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. » Car je leur rends témoignage, ils ont un zèle ardent. Ils ont un zèle ardent pour Dieu. Mais il leur manque le discernement. Ce manque de discernement, discerner le plan de Dieu, ce manque de discernement du plan de Dieu a conduit ces Juifs à avoir un zèle, mais un zèle sans intelligence, sans comprendre le plan de Dieu, sans saisir le sens de la mort et de la venue et de la mort de Jésus-Christ, le plan de Dieu accompli pleinement en Christ pour le salut de quiconque croit en lui. L'apôtre Paul n'a pas toujours été aussi lucide sur ce plan de Dieu. Il le dit lui-même dans son épître aux Galates. Il dit « Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération. J'étais bien plus zélé que tous pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. » C'est au chapitre 1 qu'il le dit. Mais sur le chemin de Damas, c'est-à-dire lors de sa conversion, l'apôtre Paul a compris l'accomplissement du plan de Dieu en Jésus-Christ pour l'humanité. Nous aussi, nous devons veiller à ce que notre zèle soit éclairé par la parole de Dieu et particulièrement par la venue et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous devons vivre notre zèle à la lumière de la parole de Dieu et ne jamais donner libre cours à nos élans, à nos émotions, à nos pensées qui ne s'inscrivraient pas dans cet élan, dans ce projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Notre zèle doit s'inscrire dans l'amour de Dieu, pour Dieu et pour le prochain. Tel est le commandement que nous avons reçu de notre Seigneur lui-même. Notre zèle doit être accompagné donc de discernement et de l'intelligence que donne la parole de Dieu à la lumière de l'avenue de Jésus-Christ parmi nous et de son œuvre à la croix, de sa résurrection. C'est le premier élément que notre zèle doit avoir. La deuxième chose que notre zèle doit avoir pour ne pas faire le mal et le justifier au nom de Dieu, c'est la pureté dans nos motivations et dans nos sentiments. L'apôtre Paul évoque des personnes qui essaient de séduire les chrétiens de Galatie en déployant un zèle qui n'est pas orienté pour faire le bien aux autres. C'est un zèle impur qui vise plus la division des chrétiens, qui vise plus à mettre les chrétiens sur leur domination, la domination de ces faux enseignants. Ce zèle impur, ce zèle mauvais, conduit aussi à des disputes, conduit à vouloir toujours imposer ses vues, ses opinions, pensant qu'elles sont meilleures, spirituelles, ce qui conduit parfois à des désordres de toutes sortes et à de mauvaises actions. C'est ce que Jacques appelle un zèle amer, c'est au chapitre 3. Il est important de réfléchir de temps en temps aussi à notre zèle, à nos motivations dans le service que nous rendons pour le Seigneur. Nous demander si ce que nous faisons à l'Église est orienté vers le bien des autres, vise l'utilité commune, ou bien il est là pour notre propre intérêt, pour notre propre orgueil, ou encore pour nos propres ambitions personnelles. Celui ou celle qui veut se faire un nom, peut le faire sans aucun problème, mais pas dans l'Église, dans le monde. Il y a des associations, des partis politiques, etc. pour cela. Mais dans l'Église, un nom doit être digne d'être glorifié, servi. C'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui ou celle qui cherche ses propres intérêts, des intérêts personnels, il faut aller dans le monde, car dans l'Église, c'est l'utilité commune qui prime. Le Seigneur donne les services, les dons aux uns et aux autres pour l'utilité commune, rappelle l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Donc, chers frères et sœurs, je ne dis pas cela parce que j'ai de doutes sur nos motivations de servir le Seigneur. Et avant de dire cela, j'ai déjà mentionné votre engagement louable que nous apprécions et sans lequel certainement ne serions pas là. Mais je dis cela simplement pour nous rappeler, pour rappeler devant nous, pour rappeler que le but que nous devons viser dans notre service, c'est l'utilité commune. L'utilité commune et notre service, l'orienter pour le bien de mon frère, de ma sœur. Ce que je fais, apporte-t-il quelque chose de bien à mon frère et à ma sœur ou pas? Et lorsque nous devons trancher une question ou l'autre, c'est l'utilité commune qui doit primer aussi, et non pas notre propre vision ou quoi d'autre ou autre chose. Donc c'est l'utilité commune et le bien de l'autre. Donc, chers frères et sœurs, la pureté et le discernement vont permettre à notre zèle de nous conduire à être en bénédiction pour les frères et sœurs de l'Église, bien entendu, mais aussi pour notre monde, pour notre génération. C'est ce zèle éclairé, pur, qui fera de nous des enfants de paix, qui recherchent la paix, comme le dit l'apôtre Paul au verset 18, et qui la procurent autour d'eux, comme nous le recommande Jésus dans Matthieu 5. Ainsi, nous serons préservés de tout obscurantisme, de tout fanatisme et de toute œuvre diabolique. Le zèle que nous sommes invités à manifester honore le Seigneur et permet à ceux qui nous entourent de grandir en maturité, d'avancer sur ce chemin de grâce que Dieu place devant chacun d'entre nous en Jésus-Christ. Donc, ayons du zèle. Telle est l'exhortation que l'apôtre Paul nous adresse et que je veux laisser devant nous pour cette année. Face à cette exhortation, pour attirer notre attention, ce qui peut porter atteinte, ce qui peut freiner, même bloquer notre zèle pour le Seigneur, la paresse, la nonchalance. Le livre des Proverbes consacre beaucoup, en effet, de place à la question de la paresse. Il la présente sous plusieurs formes. D'abord, la paresse est présentée comme un désir de ne rien entreprendre réellement, sans pour autant, bien sûr, refuser clairement l'activité. C'est une, en quelque sorte, une pseudo-persuasion de faire quelque chose. C'est une pseudo-activité. Toutes les excuses sont bonnes pour retarder l'activité, pour retarder le service, pour dire le service auquel j'ai pensé cet été pourra attendre l'année prochaine pour que je le fasse. Le livre des Proverbes nous donne aussi quelques réflexions à ce sujet. Le paresseux dit dans son cœur, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains, rester couché un instant, et ainsi de suite. Lorsque ces réflexions, de telles réflexions, si elles viennent régulièrement dans notre vie, en effet, elles peuvent sérieusement atteindre la flamme de l'esprit, le zèle de service que nous avons en nous. La paresse est aussi présentée dans le livre des Proverbes comme quelque chose qui empêche d'aller jusqu'au bout de l'action menée, d'aller jusqu'au bout du service accompli, du travail réalisé. Et car la paresse n'est pas forcément l'immobilisme, comme je disais tout à l'heure, un immobilisme total. Elle permet parfois de faire un peu, ne serait-ce que pour calmer notre conscience. Et ce qui est exprimé au Proverbe 19, juste bon, il dit « Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. » La paresse, non seulement elle peut refroidir notre élan, notre zèle dans le service, mais elle peut aussi toucher l'activité vitale de l'être humain, à savoir simplement le manger et le boire. Cela dit clairement jusqu'où peut conduire la paresse, jusqu'où peut conduire la nonchalance. La paresse va encore plus loin, elle nous pousse à fuir le monde réel, nous empêche de voir la réalité en face et nous conduit à trouver des raisons parfois invraisemblables pour justifier le fait que nous retardions, que nous ne fassions pas le service pour lequel nous sommes, le service que nous pensons pouvoir, devoir accomplir. Bien sûr, ça peut arriver de temps en temps, mais je parle lorsque cela revient régulièrement. Le paresseux dit, le livre des Proverbes, le paresseux dit en lui-même, il y a un lion d'or, je risque d'être déchiré en plein rue. Pour ne pas justement écouter, pour ne pas aller vers la réalité de terrain, il trouve toutes sortes d'excuses. Et pour ne pas écouter les recommandations de ceux qui nous entourent, la paresse aussi nous fait croire que nous sommes beaucoup plus intelligents, plus sages que les autres. Et même s'il y a bien des gens qui nous conseillent et qui nous exhortent dans une direction, nous arrivons toujours à nous donner raison et bien sûr à considérer les autres comme ayant tort. L'apôtre Paul nous dit, dans le passage que nous avons lu, « Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Le désir de ne rien faire, l'incapacité d'aller jusqu'au bout de nos projets et le refus de regarder la réalité en face sont quelques dégâts parmi tant d'autres que la paresse peut causer dans notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous invite à faire attention à la paresse pour garder notre zèle. Et c'est notre zèle, c'est la raison pour laquelle, après l'exhortation « Ayez du zèle », l'apôtre Paul mentionne la paresse et non pas la paresse. Face à la paresse, nous devons déployer toutes nos ressources pour ne pas lui céder. Le zèle n'exclut pas l'effort et l'énergie à mettre en œuvre pour accomplir l'œuvre de Seigneur, pour assumer nos responsabilités professionnelles. Au contraire, le zèle implique l'effort, le zèle implique la détermination. Sinon, ce n'est plus du zèle. Car il y aura des moments où la paresse frappera à notre porte encore au cours de cette année. Il y aura la tentation de laisser les choses, de ne rien faire. Mais nous devons mettre en œuvre les énergies que le Seigneur nous donne pour aller jusqu'au bout, pour garder notre zèle, servir le Seigneur, servir les frères et être en bénédiction pour notre monde. Il peut arriver, en effet, pour une raison ou une autre, de ne pas pouvoir assumer nos responsabilités, notre service, et cela arrive pour tous. Soyons rassurés à cet égard. Et nous n'avons pas à nous culpabiliser pour cela. Mais cela doit rester, me semble-t-il, de l'ordre de l'exception et non pas de la régularité. J'aimerais nous encourager à avoir de l'empressement pour les choses que le Seigneur nous confie, avoir la joie, le bonheur de servir l'Église de Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, et être des témoins de Dieu vivant et vrai, là où le Seigneur nous place, dans notre travail, au sein de nos familles, au milieu de nos amis et auprès de toutes ces personnes que Dieu veut bien mettre sur notre chemin au cours de cette année. Le Seigneur nous donne le soutien de taille pour garder, développer de plus en plus notre zèle dans le service. Ce soutien n'est autre que l'Esprit-Saint. L'expression « soyez fervent de l'Esprit » peut être comprise de deux manières. D'abord, avoir la ferveur dans notre esprit pour servir le Seigneur malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, ou avoir un autre sens, c'est la ferveur dans l'Esprit de Dieu pour servir avec zèle. C'est pour cela que certaines traductions de la Bible mettent de l'Esprit « soyons fervents ». De l'Esprit, ils mettent l'Esprit avec un grand E, c'est-à-dire de l'Esprit-Saint « soyons fervents ». En tout cas, dans les deux cas, notre esprit reçoit sa ferveur de l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons compter sur l'Esprit de Dieu qui déverse cet amour de Dieu dans notre cœur, aussi bien pour le Seigneur, pour stimuler notre action pour le Seigneur, et aussi pour le prochain, pour notre monde, pour que nous puissions aller dans un vrai élan vers le prochain pour le rencontrer là où il est. C'est le Saint-Esprit, en effet, qui nous encourage, qui nous conduit, qui nous donne la joie, la paix, qui nous rend capables de vivre une vie de service pour Dieu et pour le prochain. Parmi les fruits de l'Esprit et les questions de la maîtrise de soi, cette maîtrise de soi que l'Esprit nous donne, ferme aussi la porte d'une certaine manière à toute forme de nonchalance. Devrait en tout cas fermer la porte à toute forme de nonchalance. Enfin, c'est l'Esprit aussi qui nous équipe en nous accordant les dons. Et dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, il est dit, et tous ces différents dons, tous ces différents services, c'est l'Esprit qui équipe et qui donne. Un seul et même Esprit qui opère toutes choses et les distribue à chacun, en particulier comme il le souhaite. C'est lui qui opère tout en tous. Fort donc de toutes ces ressources que l'Esprit de Dieu met à notre disposition, que l'Esprit de Dieu nous accorde, nous pouvons servir le Seigneur avec zèle, avec enthousiasme. Fondés sur l'action de l'Esprit Saint en nous, nous pouvons résister à toute forme de paresse et à toute forme de tiédeur spirituelle. Et puis portés par l'amour de Dieu, de notre Dieu, nous pouvons aller aussi loin que le Seigneur nous le donnera de le faire dans notre engagement pour faire le bien et non pas le mal. Chers frères et sœurs, ayons du zèle, soyons fervents d'esprit dans le service pour le Seigneur, quel que soit le service que le Seigneur nous confiera, un service régulier comme ponctuel, ici comme ailleurs, individuel comme collectif, faisons-le avec empressement, ferveur, enthousiasme. Que le Seigneur nous accorde sa grâce pour cette année et nous donne d'accomplir les bonnes œuvres que lui-même a préparées pour nous. Amen.